en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Architecte et urbaniste, comme il aime à se définir lui-même, Aymeric Soublina cultive une discrétion sereine. Au cours de ses 40 ans de carrière, auxquels il ne semble pas mettre de point final, il a réalisé des écoles, des hôpitaux, des stades, des ouvrages d'art, des logements collectifs, des sièges sociaux, des villes nouvelles ou des nouveaux quartiers en France et à l'étranger. Parmi ses réalisations les plus célèbres, citons la ville de Marne-la-Vallée, le Stade de France, l'hôpital Georges Pompidou. En bref, si on peut oser dire ça, une architecture qui procède résolument de la ville, matrice de ses créations. Aymeric Soublina est avec nous aujourd'hui à Canal Académie pour évoquer son œuvre architecturale et son parcours dans l'émission En habit vert. Aymeric Soublina a été élu à l'Académie des Beaux-Arts le 25 juin 2008 au fauteuil de l'architecte Maurice Novarina, décédé en 2002. Il est très prochainement reçu sous la coupole au sein de l'Académie des Beaux-Arts le 2 décembre 2009. En attendant le jour de cette cérémonie solennelle, il nous a fait l'honneur d'accepter cette interview. Aymeric Soublina, bonjour et bienvenue.
Bonjour, merci.
Alors pour commencer, Aymeric Soublina, comment vous est venu le goût de l'architecture ou l'envie de devenir architecte?
Je suis le fils d'un ébéniste créateur de meubles. C'est-à-dire un homme qui imaginait les meubles, qui ne se contentait pas d'en reproduire. Et donc, dans cet atelier d'ébénisterie, il y avait du bois. Et gamin, je jouais avec le bois, donc je faisais des assemblages comme tous les gamins. Puis je m'amusais à sculpter. En fait, on me rappelle que quand j'étais gamin, je disais que j'avais envie d'être sculpteur. Je ne l'ai pas été, mais j'imagine que c'est ça l'origine de mon choix de devenir architecte.
Quand vous vous lancez dans vos études, vous intégrez l'École nationale supérieure des beaux-arts en étant reçu premier au concours, hein, ce qui a dû vous donner une belle satisfaction en 1957. Comment était l'étudiant Aymeric Soublina dans ces années ? Dans ce quartier plutôt vivant, quartier de Saint-Germain-des-Prés, très sérieux.
Oui, très sérieux.
Vous n'entiez pas les caves du quartier alors?
Non, non. Je venais d'un milieu qui ne connaissait pas tout ce folklore. J'étais très, très fier d'être reçu dans cette école prestigieuse, même si elle était déjà à l'époque contestée, même si son enseignement avait besoin d'être rénové. Il le sera quelques années plus tard. Bon, moi, j'étais très fier. Puis, effectivement, j'ai été reçu premier. Alors. Ça me donnait, disons, encore plus envie de continuer mes études. J'étais passionné par l'architecture. D'ailleurs, je me souviens qu'un de mes professeurs chez qui j'ai travaillé me disait que je ne pensais qu'à ça. C'était probablement excessif, mais c'est lui qui le disait.
Et qu'est-ce qui vous passionnait dans ces années-là? Vous vous souvenez dans ces années de formation?
Oui. Alors, il se trouve qu'avant de passer le concours d'entrée, que j'ai d'ailleurs passé deux fois, mais c'était une tradition,
oui,
on n'était jamais reçu la première fois.
Et puis vous avez bien rattrapé.
J'ai fait avec des copains, qui n'ont pas du tout suivi cette voie, deux voyages découvertes pour moi, l'un en Italie, l'autre en Espagne. Donc ça a été un éblouissement, le mot est peut-être un peu excessif, mais ça a été pour moi un éblouissement. Et quand je retrouvais ensuite sur les planches de l'école certaines gravures de bâtiments que j'avais vues sur le site, je retrouvais cet éblouissement que j'avais éprouvé en me baladant à Rome, à Florence, pas à Venise d'ailleurs, j'étais pas allé à Venise, en Lambretta.
Quels sont les...
Oh bah c'est
un exemple, une image, un monument, un site.
Oui, c'est la balade Sainte-Marie aux fleurs, c'est la découverte de la coupole de Brunelleschi à Florence, c'est la place d'Espagne, c'est voilà, c'est les images qui me viennent à l'esprit. Grenade, par exemple, voilà, les jardins de l'Alhambra, c'est C'est difficile de... C'est tous ces lieux qui sont maintenant
parcourus,
mais qui, à l'époque, fin des années 50, il y avait beaucoup moins de touristes.
Bah, il n'y en avait pratiquement pas, l'Espagne était fermée, on était sous le franquisme, même si c'était des chemins, disons, parcourus depuis longtemps, effectivement, les touristes étaient peu nombreux, donc il devait y avoir même une approche aussi tout à fait saisissante, parce que vous deviez être un peu plus seul qu'aujourd'hui dans ces lieux-là.
Ils ont une découverte... dans un environnement moins affolé, plus calme, plus proche probablement de ce que vivaient les Italiens ou les Espagnols lorsqu'ils se baladaient.
Vous disiez que vous n'aviez pas été à Venise, c'est une ville que vous avez découverte plus tard.
Après. Oui, parce que je pouvais en scooter, je ne pouvais pas tout faire. C'était déjà pas mal d'aller, vous savez, de Paris à Rome, je crois qu'on avait même poussé jusqu'à Naples, à Pompéi, oui, bien, en plusieurs jours,
plusieurs
mais pas
étapes.
Si longtemps, peut-être 5-6 jours, quoi. Une semaine, allez.
Alors quand vous sortez de l'école nationale supérieure des beaux-arts et que vous démarrez dans le métier, quels étaient les grands architectes qui marquaient leur temps et puis quel rapport aviez-vous avec ce monde-là, avec ces noms-là?
Bien, écoutez, moi je citerai les grands maîtres du moment.
Et puis les vôtres peut-être.
Ceux qui nous inspiraient. Wright, Le Corbusier, Mies van der Rohe, et puis quelqu'un, un architecte que très peu de gens connaissent, qui était Bruce Goff, qui a très peu construit. Neutra, évidemment. Perret, mais Perret, c'était déjà une autre époque. Alors, en vous citant ces trois noms-là, Le Corbusier, Wright et Mies van der Rohe, parmi d'autres, Nervi en tant qu'ingénieur, j'ai parfaitement conscience de ce que leur écriture est si différente. Moi, les six morts avec Mies van der Rohe, l'invention plastique de Wright, la rigueur polémique de Le Corbusier, et qui en fait était une rigueur polémique qui cachait la poésie des formes. C'était un faux rationaliste. Voilà, donc des écritures très, très différentes, mais je crois que le jeune étudiant que j'étais et mes copains, on sentait que c'était de l'architecture. On sentait que c'était autre chose. Il y passait un champ, une valeur poétique, un sens qui était autre chose qu'une construction, que la construction.
Aviez-vous à cette époque des idées que vous souhaitiez défendre dans vos futures constructions? Enfin, qui justement vous dites que c'était autre chose que des constructions?
Oh mon Dieu!
Non, mais...
J'avais l'ambition d'être architecte,
oui,
et si possible un bon architecte.
Oui.
Et alors, ça, c'était du domaine du rêve, un grand architecte. Voilà.
Oui.
Mais c'était normal quand on a 18, 20, 25 ans. Si on n'a pas ces aspirations-là, il ne faut pas choisir ce métier.
Mais vous n'étiez pas enfermé dans un courant, dans une école, dans un groupe artistique particulier?
Écoutez, je pense que j'étais en fait... fondamentalement plus intéressé par Wright, par la poésie d'un Wright ou d'un Le Corbusier, que par, disons le mot, la sécheresse rationaliste d'un Mies van der Rohe. Mais tout de même, c'était une époque où il y avait beaucoup de choses étaient contestées. Il y avait notamment l'idée que les architectes n'ont pas répondu à ce qu'on attendait d'eux, donc une certaine rigueur s'imposait. Mais au fond, avec le recul... Les deux premiers que j'ai cités, c'est quand même ceux qui me parlaient le plus.
Pour quelle raison?
Parce qu'il faut savoir aussi que mon époque, l'époque de mon enseignement, a été marquée par une conviction, ce n'était pas une théorie, c'était celle du fonctionnalisme. Alors c'était assez desséchant, mais on ne pouvait pas y échapper. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, l'architecte poète, l'architecte qui se fait plaisir, comme on disait et comme on dit moins d'ailleurs maintenant, était un petit peu mal perçu. Donc il y avait une forme d'enseignement qui voulait que les élèves prennent en compte cette dimension, le programme, la prise en compte de valeurs d'usage, la dimension sociale, la vérité dans l'expression architecturale, le fonctionnalisme. Mais comme toujours, c'est des phénomènes de balancier. C'est-à-dire qu'en effet... Après une architecture peut-être décorative, il était nécessaire de reprendre une certaine mesure. Voilà, donc, comme beaucoup de gens de ma génération, on est passé par ça et on s'en est évadé.
Comment s'est traduit cette évasion pour vous?
J'ai toujours eu le sentiment, même si ce n'était pas clairement énoncé dans ma tête, que ça ne suffisait pas de répondre à un programme. Il fallait le comprendre. Il fallait essayer de voir, au fond, quels étaient les besoins du futur utilisateur. Mais avec une conscience que, je ne le formulais pas comme ça à l'époque, qu'au fond, il y a une demande qui n'est pas exprimée. C'est rare qu'un maître d'ouvrage vous dise « alors vous me ferez quelque chose de beau ». C'est rare qu'ils le disent. Mais si des maîtres d'ouvrage intelligents, en fait, ils le disent sous une autre forme. Ils attendent qu'on dépasse la simple réponse à un besoin. Ils dépassent qu'on transcende un simple programme. Alors la question, c'est où et comment sur quel. Je me souviens qu'un des premiers projets que j'ai fait, d'ailleurs, c'était pas pour moi, mais mon patron, comme on disait à l'époque, m'avait chargé de ce projet. C'est un bâtiment que j'avais étudié pour lui, mais c'était à Strasbourg, c'était des logements. Et faisant une maquette en papier, je m'étais libéré, encore une fois, du rationalisme d'une barre et du tour. Et j'avais fait une tour qui se déhanchait. C'était dans les années 58-59. C'est le quai des Alpes. Et ce patron vient un matin, regarde ça, c'est une petite maquette qui devait faire 10 cm de haut sur 8 cm. Ah, il m'a dit, c'est ça qu'il faut faire. Il m'a donné carte blanche. Alors après, ça s'est construit et ça vieillit très très bien.
C'est où ?
Quai des Alpes à Strasbourg.
D'accord.
Et d'ailleurs, un jour, j'ai vu quelque part qu'on m'attribuait cette œuvre. Or, en fait, bon, j'ai beaucoup participé, mais c'est Pierre Vivien qui l'a signé.
Justement, j'allais vous demander quelles étaient vos premières réalisations, donc ça tombe très bien d'évoquer une œuvre.
Oui, mais je la faisais en tant que chef de projet, j'en étais responsable.
Qu'est-ce qui compte pour vous quand vous démarrez un projet ? Le paysage, la composition, quels sont vos...
Je vais vous dire une chose, je vais presque jamais voir le site où je vais construire.
Oui.
Je lis le programme, je l'ai dit, je regarde des cartes, des plans qui nous sont donnés, et j'imagine un peu le site, enfin j'essaie de me le représenter. Ça peut surprendre, je ne sais pas si beaucoup de gens font ça, je crois qu'il y en a. Pourquoi je fais ça ? Parce que si vous allez dans un site, sauf s'il est très fortement marqué par un relief, par une végétation exceptionnelle ou par un environnement bâti qui a une très forte présence, s'il n'y a pas tout ça, bah vous êtes face à un site, bon, bah oui, voilà, vous voyez un site, il y a une pente, et puis il n'y a pas une révélation qui me vient, moi voilà, je vois le site. Tandis que si j'y vais en l'ayant imaginé à partir d'une carte de document photographique, j'y vais en ayant une pré-reconnaissance, ce qui me permet de mieux analyser ensuite. En disant, bah oui, ce que je croyais être important, en définitive, tout à fait secondaire, puisqu'il m'avait au fond échappé ou qui avait pu attirer mon attention. Au contraire, c'est très très important. Donc voilà, c'est comme ça que je visite les sites. Et alors, soit, comme je l'ai dit, ils sont marqués par quelque chose de prégnant, et naturellement, ils vont orienter la réflexion architecturale, la disposition du projet. Soit il n'y a rien, il y a des sites où il n'y a rien. Et à ce moment-là, je me dis, il faut essayer d'y apporter quelque chose. Ce bâtiment que l'on va imaginer là, construire là, c'est peut-être lui qui lui donnera son sens. Parce que quelquefois, dans ces périodes d'écologie qui sont des périodes importantes, il faut tenir compte, il faut dire que quelquefois des sites ne présentent aucune espèce d'intérêt et que... Je cite souvent, d'ailleurs je le dirai dans mon discours, vous comprenez les langues de sable qui étaient sur la lagune au bout du pot, dans l'embouchure du pot. Bon, c'était des langues de sable, bon, on représentait certainement un certain charme, mais pardon, je crois d'y avoir construit Venise la Sérénissime, c'est quand même autre chose.
Alors ça c'est sur la question presque obligée du site, quand on s'adresse à un architecte, vous avez justement fait une réponse très singulière et originale.
J'en ai une autre.
Vous avez, voilà, c'en est une autre. Ça m'est difficile dans ce que j'ai vu de stigmatiser vos œuvres. C'est-à-dire, je ne peux pas dire, Aymeric Zoublena, c'est telle forme. J'ai un peu de mal.
Tant mieux.
C'est difficile pour moi de le présenter à la radio. C'est la difficulté. J'ai eu beau lire que le cercle était une des formes que vous appréciez particulièrement. Écoutez, quand je regarde l'ensemble, donc j'ai beaucoup de mal à présenter ça. Je vais dire des tristes banalités. Il y a un côté un peu force tranquille, avec des formes un peu sages, mais en rupture quand même. Et des ruptures légères, intégrées, avec beaucoup de mesures, oui, de sérénité peut-être, non pas
vous
que
savez,
les architectes construisent des trucs.
Vous savez, l'architecture, c'est un métier sérieux. J'ai dit que je voulais être sculpteur. Ce n'est pas une sculpture agrandie. Ça se bâtit, ça crée des volumes dans lesquels des hommes vont vivre, quelquefois mourir, d'autres fois naître, et plus, de façon plus agréable, se distraire ou travailler. Donc, un exercice formel qui consiste à bâtir une sorte de sculpture, ensuite on s'ingénie, on va essayer de l'habiter, je trouve ça insupportable. Voilà.
C'est aussi la responsabilité de la mission architecturale, des réponses qu'on apporte pour les autres aussi, qui pèsent.
Oui, alors une fois que j'ai dit ça, naturellement il faut transcender. Alors, c'est ce que je dis, je crois, dans ce texte ou dans d'autres. Peut-être que je déborde maintenant parce qu'on va parler du Stade de France. En revanche, pour chaque projet, et je dis bien pour chaque brochet et dans chaque site, essayez de trouver une forme, une volumétrie, peut-être une couleur ou une structure qui permette de repérer et de comprendre ce projet. D'exercer, se dire alors un tel c'est toujours rond ou alors c'est toujours tout droit. C'est une notion de style, c'est ça. Ça me paraît un peu hors de propos.
À chaque création architecturale, un élément très emblématique, c'est peut-être
oui, c'est plutôt
ça
ce que,
vous
c'est
cherchez.
Plutôt ce que je cherche, oui. Plutôt que de venir en me disant ah bah, je vais essayer de caser une coupole ou essayer de caser une succession de droites ou essayer de caser une succession d'obliques, ça me paraît tellement hors de propos, quoi.
Alors prenons peut-être quelques exemples. Vous veniez d'évoquer le Stade de France, effectivement, une de vos constructions phares. D'abord parce qu'elle nous a porté chance, puisque personne n'a oublié la victoire de la Coupe du Monde en 98. Je suppose que vous êtes beaucoup exprimé sur ce sujet à l'époque. Pardonnez-moi de revenir dessus, mais comment est né justement ce stade aujourd'hui mythique pour la France et puis pour le monde, voilà. Puis vous en avez construit beaucoup d'autres, on va en parler. Et c'est pourtant pas votre unique spécialité, là encore très difficile de vous enfermer dans un domaine particulier.
Alors, je rebondis sur le mot spécialité. Il se trouve que je fais, que j'ai fait des stades et des hôpitaux, entre autres, puis quelques universités. J'ai dit, un architecte ne doit surtout pas être un spécialiste. Surtout pas. Ça doit être un généraliste. En ce sens qu'il doit pouvoir aborder n'importe quel type de programme, pour autant qu'on veuille bien faire appel à lui, mais s'entourer pour autant de gens qui, dans le domaine concerné, ont des références, des compétences et sont des spécialistes. Mais il n'y a rien de pire qu'un architecte qui ne fait que des stades, parce qu'après, il conduira toujours la même réponse, qui ne fait que des hôpitaux, il conduira toujours la même réponse. Ce n'est pas si facile que ça, parce qu'effectivement, ayant fait des stades, on vous appelle pour faire des stades, ayant fait des hôpitaux, faire des hôpitaux. Mais si vous n'avez jamais fait d'opéra, on ne vous appelle pas pour faire des opéras. Bon, mais c'est comme ça, ça c'est la vie. Donc, pour revenir au Stade de France, et c'est une thématique que je développerai sur d'autres projets, oui, d'autres programmes, on nous demandait de faire un stade urbain. C'était un stade urbain. D'ailleurs, le choix du site qui n'était Saint-Denis n'était pas le premier site qui avait été choisi. Il était envisagé de le mettre du côté de la ville nouvelle de Melun-Sénart, du côté de Massy, je crois, dans des zones un peu désertiques. Et puis, pour mille raisons d'ordre politique, de disponibilité de terrain, ça a été mis à Saint-Denis. Et dans le programme, c'était un stade urbain qui devait s'inscrire dans la ville, Saint-Denis, la ville ancienne, et être capable de se positionner par rapport à des futurs quartiers qui se développeraient autour. Bon, une fois qu'on a dit ça, un stade urbain, concrètement, ça veut dire quoi ? Eh bien, la réponse que j'ai faite avec, citons aussi les autres architectes qui ont travaillé avec moi, c'est-à-dire Macari, Réginbal et Constantini, l'idée c'est de dire, voyons, quel est l'un des éléments caractéristiques d'un stade? C'est une arène qui regroupe des foules, 80 000 spectateurs. Mais avant d'y arriver, on est autour, on se balade sur un parvis. Comment, au fond, et cette arène, elle est couverte. Enfin, pas l'arène, pardon, les gradins où se tient le spectateur est couverte. L'arène ne l'est pas. Elle le sera dans les futurs stades. Eh bien, imaginons que le public qui arrive, les futurs spectateurs, déambulent, bavardent, s'interpellent, et ils se promènent à couvert, protégés de la pluie ou du soleil, un petit peu, alors c'est bon, un peu, comme les péristyles autour des temples. Bon, à partir de là, a germé cette idée, eh bien, si ce toit débordé et formait un péristyle. C'est une façon de dire, voilà, vous n'êtes pas encore dans le stade, vous êtes dans un lieu qui vous protège, qui est sur un parvis c'est une grande place urbaine, ben vous vous promenez là, voilà. Donc c'est une façon de dire c'est un stade urbain. Alors une fois qu'on a dit ça, il n'y a encore rien de dessiné. Alors on a fait 10 000 croquis, j'ai fait des maquettes, j'ai fait des trucs. Et puis est née cette idée de cette couverture, essayons de la rendre emblématique. Alors ces mots-là n'y étaient pas quand on discutait. Donc donnons-lui le sentiment, elle déborde largement, je crois qu'elle déborde une trentaine de mètres, il me semble, je ne sais plus, j'ai plus les chiffres en tête. Essayons de la rendre aérienne, comme quelque chose qui flotte en l'air, qui est là, très léger, qui, comme en état de lévitation, de suspension. Donc, ensuite, cette idée nous a bien plu, je l'ai poussée, on l'a développée. Alors après, il s'agissait de passer comment concrètement on construit ça, comment on le porte. Vous voyez, on rentre d'une réflexion d'ordre urbanistique, on passe à une réflexion d'ordre poétique, et ensuite à une réflexion d'ordre structurel. Et puis je passe rapidement sur la question d'ordre économique qui existe quand même. Voilà. Donc, ce qui la rend emblématique, ce stade, c'est ça, c'est cette couverture. Mais on n'est pas venu en disant comme ça, c'est un stade, donc. Il y a une seconde idée qui est venue, qui résulte d'une réflexion fonctionnelle. Il faut accueillir 80 000 spectateurs, ça c'est facile. Il faut les évacuer très rapidement, pour éviter tous les conflits. Donc, l'idée que ce parvis se creuse à un moment, comme une sorte de vaste assiette, une vaste cuvette qui amène très très naturellement spectateurs dans la partie basse des gradins. Et puis un étage intermédiaire qui est une grande coursive circulaire et auquel on accède par 18 escaliers monumentaux. Ah bon, escaliers monumentaux. Non, oui, escaliers monumentaux. Et là, il y a eu l'idée très belle qui est née de traiter ces escaliers comme si le stade était une sorte d'immense navire contre lequel on vient adosser provisoirement d'immenses structures qui le touchent à peine. Comme le long d'une coque de bateau, vous savez, on vient accrocher quelques échelles de coupé ou quelques passerelles qui sont là provisoires. Mais là, donc, ces escaliers ont pris une forme d'étrave. Alors bon, bateau, étrave, etc. Et ils sont volontairement décollés de la coque et le stade. Et même à un moment donné, j'avais envisagé que le dernier palier soit amovible, puisse se relever et qu'on crée carrément un vide. Et je disais que par ailleurs, c'est intéressant parce que si on voulait empêcher que le public y accède à cela pour une raison quelconque, à des certains moments, puis on m'a dit non, parce que ça va être dangereux, parce que des gens pouvaient très bien escalader ce palier qu'on relevait, et puis tomber dans le vide à ce moment-là d'une vingtaine de mètres. Voilà des démarches. Et c'est quand on se balade sur le site du stade, ce sont aussi des images, des volumes emblématiques. Donc la légèreté du...
Qu'on a tous en tête, et puis qu'on le voit aussi de l'autoroute, on le voit...
Ça c'est merveilleux,
parce qu'on le voit sous des échelles complètement différentes. Et j'imagine pour les spectateurs à l'intérieur encore une autre vision, on aura...
Vous parlez d'échelle, c'est intéressant, parce que l'échelle de l'autoroute est une échelle du territoire, et lorsqu'on est de l'autre côté, à l'opposé, on est à l'échelle urbaine, puisque depuis que le stade est ouvert, il y a des milliers de logements, de mètres carrés de bureaux, des commerces sont construits et qui vivent très bien. Il n'y a qu'une chose que je regrette, enfin que je regrette et mes amis architectes regrettent aussi, c'est que ce parvis, entouré d'une grille que je voulais comme la grille du Luxembourg. Je disais toujours, moi je ne veux pas que ce soit une clôture, c'est une grille, les grilles magnifiques des jardins parisiens dessinées. Cette grille devait rester ouverte dans la journée et le socle du stade devait accueillir des commerces, des boutiques, il y était un musée du sport était prévu. Et ce parvis devait être une place publique pratiquée par les gens. Ça ne s'est pas fait. Les grilles sont fermées.
Les grilles sont là.
Il y a des très belles grilles, mais le parvis n'est pas pratiqué en dehors des moments de stade ou de match ou de concert.
Mais du fait des autorités de
sécurité.
Oui,
c'est ça, pour des questions d'entretien, des questions d'entretien,
de volonté,
de sécurité, etc.
Voilà. Politique ou de sécuritaire.
Quand je vais au stade de France, chaque fois que j'y vais, j'assiste à quelques concerts aussi, ce qui me plaît, c'est qu'on n'a pas le sentiment, vous verrez, d'être dans un lieu immense. Il est très, comment dire, le mot échelle humaine est absurde, pour 80, ça n'a pas de sens, mais il est serein, on y est bien, c'est agréable, même lorsqu'il est vide, d'être dans un espace que l'on peut appréhender d'un regard. Ce n'est pas un espace déserté, même lorsqu'il est vide. Au contraire, je ne serais pas à moi de le dire, mais je crois que c'est une très belle réussite.
Marquons une courte pause, Aymeric Zoublena, si vous le voulez bien, et retrouvons-nous dans quelques instants. Prenons l'exemple de l'hôpital Georges Pompidou à Paris en 2000 et sa rue intérieure sous Haute-Verrière, qui est comme un axe majeur, qui est l'axe majeur de cette structure hospitalière. Alors que symbolise cette rue et quelle fonction a-t-elle au sein de l'hôpital que vous avez conçu ?
Là encore, il faut repartir de quelques éléments du programme. Il faut comprendre d'abord que, notamment pour un hôpital, les programmes qui sont confiés à l'équipe de maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire architectes et ingénieurs, ça fait à peu près entre 300 et 400 pages. Donc, vous voyez, il y a une accumulation d'informations, de schémas, de surfaces, et d'un bon. Et puis, il y a quelques phrases qui émergent de ça, qui sont les phrases d'introduction. Et on disait, ça s'inscrivait dans la grande politique initiée donc dans les années 80, l'humanisation de l'hôpital. Humanisation de l'hôpital. Bon. Et puis, un hôpital urbain. Je ne sais pas si c'était le mot ou dans la ville. Une thématique reprise par ailleurs. Mais c'est logique. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, il faut essayer de deux mots. Il y a eu les grands ensembles. Il y a eu l'installation sur des territoires vastes à la périphérie des villes, des logements pour abriter les migrants sur la capitale ou dans les autres villes. Il y a eu les campus universitaires à l'extérieur des villes. Il y a eu une sorte de grand mouvement qui conduisait les gens à s'installer à la périphérie. Et puis, il y a eu, évidemment, comme toujours, un retour du balancier. L'idée, il faut rentrer en ville, reconquérir la ville, se réinstaller dans la ville. D'où le stade en ville, l'hôpital dans la ville, l'immunisation de l'hôpital.
Alors, celui-là est sur les quais de la Seine.
Magnifique. Un emplacement magnifique. Vous comprenez, il se trouve que pour des raisons économiques, pour des raisons quelquefois politiques, les hôpitaux qui n'ont pas des moyens financiers qui leur permettent d'acquérir des terrains en centre-ville qui sont toujours chers, on les installe souvent à la périphérie. Alors, quelquefois, dans des quartiers en voie d'urbanisation. Bon. Là, vous vous rendez compte, mais c'est un site merveilleux. J'ai face à la Seine, le parc n'existait pas encore, remarquablement desservi, un périphérique qui permet d'y accéder rapidement, des stations de métro pas trop loin, des stations d'autobus, et puis dans un quartier en devenir, qui allait se construire. C'était formidable, le choix.
Oui, c'était un projet très excitant.
Donc, un hôpital urbain et humanisation d'hôpital. Alors, les hôpitaux étaient à l'origine, au XVIIe et XVIIIe siècle, des équipements qu'on mettait hors la ville pour des raisons simplement de... craignant les épidémies, craignant tout ce qui pouvait sortir de ces lieux où on hébergeait souvent une population déshéritée. Ça n'a plus d'être comme ça. Donc je me suis dit, mais au fond, si cet hôpital, on pouvait le traverser, si on pouvait y accéder comme si c'était un grand équipement public, à toute heure du jour, sans qu'on ait nécessairement à y faire, ni à consulter, ni à aller visiter des malades, ni à y être hospitalisé. Et cette réflexion-là tirait son origine de la notion d'hôpital urbain et aussi du fait que sur le site, sur le terrain, il y avait deux dessertes importantes, une station de métro et une future gare de RER, donc, qui était distante d'à peu près... la station de métro est un peu plus lointaine. Enfin, le bout du terrain qui se trouve à l'est permettait de se relier rapidement, d'atteindre rapidement la station de métro. Donc j'ai dit, mais si pour aller de l'une à l'autre, on crée une rue intérieure et puis qu'on desserve l'hôpital de chaque côté, voilà, c'est une façon de... C'est un hôpital urbain, on entre dans l'hôpital comme dans n'importe quel équipement. Et puis naturellement, cette rue, il faut quand même essayer de la protéger parce que s'y trouveront des gens qui ne sont pas forcément que des visiteurs. J'ai proposé ça, c'est un concours. J'ai proposé cette idée dont l'origine, il faut rendre à César ce qui appartient à Pierre Riboulet, était déjà initiée, mais pas poussée jusqu'à sa réflexion extrême par Pierre Riboulet à l'hôpital Robert Debray. Il avait, mais sauf que sa rue à lui ne débouche pas. Donc j'ai proposé ça au concours, ça s'est fait en 2 degrés, j'ai été lauréat, et c'était une idée un peu risquée quand même. Elle a plu, j'ai été retenu, et cette rue est une rue parisienne ouverte à n'importe qui. Alors ensuite, après, sur sa traduction architecturale, c'est une grande verrière qui permet d'éclairer tout un certain nombre de locaux qui s'ouvrent dedans. Mais lorsqu'on entre... On est dans l'espace hospitalier, c'est pour ça que je l'ai appelé la rue hospitalière. On est dans l'espace hospitalier, mais on n'est pas encore entré dans les différents services de l'hôpital. Et je dois dire que, avec le recul du temps, et pour avoir entendu beaucoup de personnes m'en parler, cet espace hospitalier, cette rue hospitalière, est très bien perçue, très bien vécue. Elle est un lieu agréable et qu'on me cite très souvent. C'est un lieu de calme, on pouvait craindre un peu le tumulte, mais pas du tout. Les gens s'y comportent d'une façon discrète, ils déambulent de façon discrète. Il y a des gens qui n'ont rien à y faire et qui vont prendre un café. Il y a quelques plantes. On a avec le directeur Louis Omnes, que je salue parce que c'est un homme remarquable. On a voulu y introduire des palmiers. Mais alors, je n'ai pas parlé de l'humanisation. Alors, l'humanisation, c'était quoi? C'était d'abord ne plus avoir de chambre à 4 lits. Je ne parle même pas de chambre à 6 lits. D'avoir le maximum de chambres à 2 lits, voire à 1 lit, et apporter au maximum de locaux dans lesquels circule et travaille le personnel de la lumière naturelle. C'est facile de dire ça. C'est très difficile de le mettre en forme architecturalement. Très difficile. Voilà, c'est deux idées qui ont dicté l'organisation de l'hôpital.
Dans votre parcours, Aymeric Zublena, l'urbanisme est devenu très vite pour vous un domaine de recherche. Et est-ce que vous pouvez nous dire où et qui vous a initié à ce regard, avant de parler des villes nouvelles, d'évoquer un peu...
Oui, professeur Pierre Vivien était l'un des rares professeurs qui parlait de questions d'urbanisme. Il nous disait toujours, le bâtiment que vous concevez, essayez de l'imaginer dans un environnement. Ce n'est pas un objet en soi, comme si on le posait comme une sculpture qu'on pose sur une cheminée. Il est dans un environnement, alors soit cet environnement est naturel, soit c'est un environnement construit. Donc, par comme ça quelques propos, il sensibilisait à ces dimensions, cette urbanité. Alors, le hasard de la vie font que j'ai fait ce qu'on appelait à l'époque le séminaire d'urbanisme Tony Garnier, qui avait été initié à l'issue des études d'architecture par 2 professeurs que j'ai fait, ça a duré 2 ans, donc je me suis intéressé à ça, et l'un des anciens qui avait, c'est Jean Delus, était entré dans ce qui s'appelait à l'époque l'IAURP, l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de la région parisienne. Il me dit, écoute, si ça t'intéresse, on cherche à recruter de jeunes architectes. J'y suis entré, enfin je ne vais pas rentrer dans le détail, j'y suis entré, c'est comme ça que j'ai été amené à intégrer une ville nouvelle qui commençait.
L'aventure de Marne-la-Vallée.
Il n'y avait rien. Il y avait
on a peine à imaginer aujourd'hui que...
Il y avait des vaches. Il y avait des vaches, quelques chèvres plutôt.
Pour moi, qui n'est pas connu cette partie-là, qui ne connaît Marne-la-Vallée que construite, c'est très impressionnant. J'ai du mal à imaginer.
Vous savez que je cite l'anecdote, je ne sais pas si elle est vraie, c'est que Paul de Louvrier, revenant d'Algérie, le général de Gaulle lui confie l'organisation de la région parisienne, et de Gaulle, avec de Louvrier à ses côtés, en survolant la région parisienne en hélicoptère, dit de Louvrier, mettez-moi de l'ordre dans ce bordel. C'est ce qu'on raconte, je pense que c'est vrai. D'où le schéma directeur
auquel vous avez participé.
Non, je n'ai pas participé. Le schéma directeur avait été fait. Jean Delus y a participé.
D'accord, pardon.
Non, quand je suis arrivé, le schéma directeur était fait, je pense approuvé, oui, dans ses grandes lignes, et les villes nouvelles étaient positionnées. La première était Saint-Quentin en Yvelines, je crois, ou Évry, je ne sais plus, puis Cergy-Pontoise, enfin l'ordre, je crois.
Alors vous avez.
Et donc moi j'ai été, on m'a dit, tu vas à Marne-la-Vallée.
Ça vous a occupé plusieurs années, ça.
Ah, ça m'a occupé une quinzaine d'années, oui. Une quinzaine d'années. Mais à un moment donné, avec Michel Macari et d'autres associés, nous avons créé un atelier d'architecture pour pouvoir être architecte. Car l'urbanisme était une chose passionnante, mais je voulais exercer mon métier d'architecte, c'est-à-dire de construire, de me confronter à la réalité du chantier, à la réalité des programmes et de maître d'ouvrage.
Et je voudrais qu'on revienne un petit peu sur Marne-la-Vallée, sur cette aventure des villes nouvelles. Et puis surtout, je voudrais vous demander quel regard vous portez aujourd'hui sur ces villes nouvelles, qui ne sont plus, qu'on n'appelle plus des villes nouvelles.
Écoutez, je pense que c'est une réussite. C'est une réussite. Lorsqu'on a créé les grands ensembles à l'issue de la guerre, il fallait répondre dans l'urgence aux besoins de loger des habitants. On l'a fait au gré des terrains disponibles.
On peut citer Sarcelles ?
Oui, par exemple, qui n'était pas d'ailleurs le plus mauvais des grands ensembles. Mais donc au gré des terrains disponibles, souvent mal desservis, peu équipés, et on construisait des logements. L'idée de faire venir les emplois et tout ça. Les villes nouvelles, c'était quoi comme idée ? C'était d'abord d'essayer de créer deux grands couloirs de verdure qui sépareraient les villes nouvelles qui étaient au nord de Paris et de celles qui étaient au sud de Paris. C'est deux grandes parallèles. De concentrer toutes les opérations nouvelles sur ces deux grands axes et dans ces villes nouvelles. Et de réaliser en même temps des logements, des équipements, des infrastructures, y amener les emplois nécessaires pour faire des vraies villes et pas des grands ensembles dortoirs. Or, ce qui est formidable, c'est que cet objectif a été pour l'essentiel tenu grâce à une politique volontariste initiée par le général de Gaulle, mais enfin, et de Louvrier, parce que c'était comme celui qui était sur le terrain, c'était de Louvrier, soutenue, même si c'est quelquefois pas suffisamment d'une façon forte et puissante, mais par les différents présidents de la République qui se sont succédés. Même si elles n'étaient pas toujours, si certains présidents contestaient cette politique. Dans l'ensemble, sur près de 30 ans, cette politique a été maintenue. Et elle est encore pour l'essentiel maintenue. Cette action volontariste correspond à une époque. Elle n'est plus imaginable aujourd'hui. À une époque dirigiste, disons-le.
D'aménagement du territoire aussi.
À un niveau politique très élevé.
De l'État.
Avec un grand E. Avec la capacité de mettre en place les équipements nécessaires, de mettre en place les hommes et les structures administratives nécessaires, et avec une volonté soutenue pendant près de 30 ans. Donc pour moi, c'est une réussite. Alors on peut critiquer, il y a plein de choses qui certainement ne vont pas, mais le fait d'ailleurs qu'elle continue à se développer, que des emplois continuent à s'y installer, que des investisseurs privés y aillent. Ce qui n'a pas été, en revanche, maintenu, c'est qu'on n'a pas pu empêcher que les grands espaces verts qui devaient les séparer, on a continué à les urbaniser. Ça, c'est bien dommage.
À les urbaniser et puis peut-être
aussi... D'une façon plus désordonnée.
Puis il y a toujours peut-être que cette périphérie parisienne souffre aussi de son raccordement à la capitale ou au centre. Enfin bon, ça, ce sont d'autres détails.
Ça, c'était un choix.
Enfin, d'autres problématiques.
C'était un choix du schéma directeur. Car quand, encore une fois, je n'y étais pas. Les équipes qui ont imaginé le schéma directeur sont allées en Angleterre et ont regardé ce que c'était les villes nouvelles anglaises avec la Green Belt. Ils sont allés aussi en Suède et en Norvège et en Hollande pour voir ces grandes opérations. Et le choix qui a été fait, c'est une erreur d'imaginer qu'on pourra développer des villes autonomes, à même 30 ou 40 kilomètres de Paris. Il y avait eu, dans les années 50-60, ce qu'on appelait les 3M, Montmelin, Montereau. Ça a été un échec. Car elles étaient trop proches de Paris pour vivre en autonomie. Donc l'idée du schéma directeur, c'était on fait des villes nouvelles, mais on les articule avec Paris. Et l'idée, c'est qu'il fallait que les migrations se fassent dans les deux sens. Et elles se font dans les deux sens. C'est-à-dire que des gens qui habitent Paris vont travailler dans les villes nouvelles et des gens qui sont dans les villes nouvelles vont travailler dans Paris. Ça, c'était un choix.
Marquons une courte pause, Aymeric Zoublena, si vous le voulez bien, et retrouvons-nous dans quelques instants. Zoublena, quelle serait la ville idéale du XXIe siècle ?
Il y a 10 ans de ça, une université demande à un certain nombre de personnes « Parlez-nous du XXIe siècle. Imaginez le XXIe siècle. » Eh bien, je vais faire l'hypothèse que pendant des siècles, les villes importantes, pas que la capitale, se sont étendues, dévorant peu à peu la nature. Tous les décrets royaux, impériaux, républicains qui ont été pris n'ont jamais réussi à stopper cette extension. Eh bien, j'imagine qu'un jour, par une sorte de phénomène imprévisible et incontrôlable, il y a une sorte de retour vers le centre de la ville qui se fait, parce que les gens en ont marre, d'aller le dimanche dans les supermarchés, sur des parkings improbables, de faire des kilomètres, ils en ont marre. Donc, sans qu'on puisse bloquer, il y a une sorte de repli, de retour vers le creuset originel. Bon. Alors vous imaginez ce que ça représente. Ça veut dire qu'on retourne vers une hyperdensité dont on ne connaît pas la forme et avec des conséquences sociologiques difficiles à imaginer. On peut être soit catastrophiste et dire ça sera dramatique, soit être idéaliste et au contraire, on retrouvera une véritable convivialité. Or, quand j'ai écrit ça il y a 10 ans, j'écrivais ça en disant, bon, voilà, c'est une réflexion. Je ne disais pas que c'était bien. Je disais, je fais cette hypothèse. Or...
Si on regarde le Grand Paris, le projet des Grands Paris...
Or, je lis dans le Monde, il y a maintenant 3 semaines, un article qui dit que l'INSEE constate qu'il y a un retour vers les villes, vers les centres-villes, et que les extensions périphériques, le mouvement vers l'extension périphérique, vers la périphérie, tend à diminuer. Il y a 3 semaines que c'est pareil. Je ne sais pas si j'étais devin. Donc, je ne sais pas quelle sera la forme de la ville idéale, mais si ce que je dis s'avérait, très probablement, on verrait naître un autre urbanisme. Et il faut dire une chose, lorsque on fixe un plafond de densité dans les villes, c'est très bien pour ceux qui habitent. Au fond, après tout, de décider qu'il ne faut pas trop urbaniser, pour ceux qui ont le privilège d'y vivre, c'est sympathique. Mais c'est un peu, ça veut dire qu'on exclut d'autres. Si on disait, écoutez, acceptons, voyons ensuite comment on peut maîtriser ça, d'augmenter la densité possible et certains plafonds de hauteur dans certaines villes, en veillant à ce que ceci ne profite pas uniquement à quelques privilégiés, c'est évident. Ça veut dire aussi là un pouvoir politique qui est capable de contrôler ça. Il est possible que naisse une nouvelle forme urbaine en espérant qu'elle soit adaptée à une vie agréable.
Une forme urbaine qui concilierait peut-être ou réconcilierait urbanité et ville et environnement, c'est le défi d'aujourd'hui. Est-ce que je peux vous demander ce que vous pensez des projets présentés sur le Grand Paris ?
Oui, écoutez, je suis allé à l'exposition, naturellement. Visitant les pavillons, j'ai à peu près rien compris. Parce qu'il y a trop d'informations. Mais, en revanche, je suis resté, j'étais avec ma femme, on est resté, je ne sais pas, une heure et demie, je ne sais pas, mais un temps très long, et j'ai écouté ce que les confrères disaient. J'ai écouté Paul Chemetov aussi faire une synthèse ou parler en premier, je ne sais plus. Et écoutant mes confrères, c'était beaucoup plus clair, beaucoup plus simple, car ils faisaient passer les quelques idées essentielles. Alors, ce que j'en pense, c'est que, moi, comme toujours, il y a plein d'idées. Je pense qu'il n'en ressort pas une idée maîtresse, mais c'est peut-être bien, et ça correspond peut-être à l'ère du temps, au moment où on ne peut plus reconduire ce qui a été fait à propos des villes nouvelles. La politique ne le permet plus. Les élus n'accepteraient plus d'être pris sous tutelle. Donc il faut continuer à réfléchir. Sur l'extension jusqu'au Havre, c'est une idée qui fait rêver. Est-ce qu'elle peut réellement être mise en œuvre ? Quelle forme prendra-t-elle ? Elle est un peu contraire à ce que je disais, c'est-à-dire qu'elle tend à être expansive.
Oui.
Et j'imagine que c'est d'autres voies qu'il faut prendre, mais voilà. Allez écouter ce que disent les architectes, c'est beaucoup plus intéressant, et c'est beaucoup plus simple à comprendre que ce qui était présenté
pour l'exposition. Au musée de Chaillot, musée de l'architecture et du patrimoine, je ne sais pas.
Maintenant, il faut continuer cet objectif qui est une belle aventure, qui est un défi politique. Il faut pas que ça s'enlise. Mais parce qu'il faut écouter les architectes. Je vous assure, ils parlent dans un langage très simple, limpide, sans grandes envolées, très sympathique même. Mais parce qu'en parlant, je pense qu'ils font la synthèse de quelques idées. Donc ils mettent en avant celles qui sont les plus significatives de leurs intentions.
Dans tout votre parcours, avant qu'on aborde un petit peu l'épée d'académicien, je voudrais vous demander si vous êtes architecte, vous avez beaucoup construit, mais vous avez aussi été professeur d'architecture à l'école d'architecture de Paris-Villemain de 1969 à 1995. C'est là encore une grande partie de votre vie, vous ne faites pas les choses à moitié, hein. Dans le temps c'est par 10-15 ans. Et puis vous avez aussi été architecte conseil au ministère de l'Équipement, ça on l'aura compris au cours de l'entretien, mais que vous ont apporté ces différentes activités ?
Alors d'abord, mon activité principale, c'était quand même d'être architecte.
Voilà, parce que vous avez rappelé tout à l'heure que vous aviez...
J'étais architecte. D'autre part, dans mes premières années à Marne-la-Vallée, je n'ai pas construit.
Non.
Pas construit, j'étais essentiellement urbaniste. Donc les choses se sont faites peu à peu en se superposant à certains moments. Ainsi, à un moment donné, j'ai donc décidé de ne plus travailler à Marne-la-Vallée, tout simplement pour être totalement architecte. L'enseignement qui m'a passionné n'occupait que peu de temps. Ce n'était pas mon activité principale. Donc, ça m'a permis de ne pas m'enfermer, ça m'a permis de m'ouvrir, d'entendre d'autres discours, de percevoir d'autres horizons. Alors, j'ai été professeur parce que c'était l'effervescence des années 68, et l'école des Beaux-Arts était jetée à bas.
Le prix de Rome.
J'étais l'un des derniers que j'ai eu, mais je n'ai pas été premier grand prix.
Vous avez été deuxième. Grand prix.
J'étais l'un des derniers, le dernier d'ailleurs. Tout ça
a été supprimé.
Jeté à bas. Et donc, je me suis interrompu en 1995 parce que je venais de gagner le Stade de France et ce n'était plus possible. Je ne pouvais plus mener de front ça. Vous savez, l'époque des villes nouvelles, l'époque de l'enseignement correspondait aussi à une dimension sociale, c'est-à-dire que on parlait de l'habitat du plus grand nombre, on parlait de la ville, macrostructure urbaine, on parlait de grandes opérations Comerno. Mais il y avait toute une réflexion sur des architectures qui dépassaient l'objet en lui-même, qui tentaient de s'étendre sur la ville, de créer des quartiers tout seul. Et l'enseignement participait de ça aussi. C'est l'époque où on s'est mis à parler de sociologie. C'est parce que, à une époque où l'architecte était enfermé sur lui-même dans l'école des Beaux-Arts, on s'est ouvert. Alors, comme toujours, à un moment donné, on a peut-être un peu trop parlé de sociologie et pas assez d'architecture et pas assez d'esthétique, pas assez de beauté, mais c'était nécessaire.
Parlons de votre élection au sein de l'Académie des Beaux-Arts dans la section d'architecture. Vous allez être reçu très prochainement sous la coupole, le 2 décembre 2009. Je ne vais pas vous demander de dévoiler les discours prévus. Vous allez être accueillis par Paul Andreu. Vous avez, comme tous les académiciens, avoir une épée d'académicien. Alors, souvent les architectes et les artistes, les membres de l'Académie des Beaux-Arts, créent, conçoivent leur propre épée et la font réaliser. Alors, qu'en est-il de votre épée, Monsieur Zoublena ?
D'abord, je veux dire que je suis très heureux et c'est un honneur pour moi que ce soit Paul Andreu qui m'accueille. C'est très important. Mon épée, oui, je l'ai effectivement dessinée moi-même. Elle reprend quelques éléments plastiques de trois opérations significatives. Le Stade de France, naturellement. Nous n'avons pas parlé des ponts.
Il y a le pont Levant sur la Seine,
oui,
à Rouen. Mais j'ai vu le projet, mais qui n'a pas été retenu,
oui, oui,
à Bordeaux,
oui, qui est magnifique,
de ce pont mobile qui était, alors là,
magnifique,
une sculpture.
Oui, c'est une sculpture.
C'est superbe quand je suis tombée là-dessus.
Ça sera un des grands regrets de ma vie.
Ah oui.
À titre personnel et pour la ville de Bordeaux, parce que je pense qu'à ce moment-là, ça aurait donné à cette ville qui est magnifique, qui n'a pas besoin de ça, mais un signe, un emblème, une sculpture, prenons un mot simple, qui, je crois...
C'était très audacieux.
Oui, qui aurait eu une présence très forte dans cette ville magnifique, je le répète. Oui, donc je me suis inspiré de cette grande aile d'oiseau qui fera la garde.
Qu'on voit donc... Ah ouais, très bien, il en restera quelque chose.
Oui, sauf que... Cette garde, elle doit faire, je ne sais pas, 15 cm. Et l'aile d'oiseau, elle faisait 170 mètres.
Ah ben oui, je sais bien.
Et puis, vient se greffer en son centre le disque du Stade de France. Et puis, le pommeau, l'épée, l'âme, traverse le pommeau et dessine deux éclairs de lumière de part et d'autre. Et pour moi, ça évoque les verrières de Pompidou. Il y a aussi une très belle verrière que j'ai faite pour un centre de micro-informatique qui s'appelle Georges Charpak, à Gardanne, voilà. Et puis, j'y ai glissé une petite écaille d'ébène en souvenir de mon père.
En souvenir. Voilà les symboles, les signes et les formes que vous avez réunis sur le simple paysage de votre main d'académicien. Merci d'être venu nous en parler et de nous avoir présenté à la fois votre œuvre et votre parcours, M. Zoublena. Merci beaucoup.
Merci à vous.